Les personnes à la couleur de cheveux rousses représentent respectivement 2 et 5% de la population mondiale et française. La couleur rousse est causée par un variant du gène MCA1R, se situant sur le chromosome responsable de la couleur de nos yeux et de nos cheveux.
Est-il normal d'avoir à vous parler des discriminations par rapport à une couleur de cheveux ? S'il est clair que la question ne se pose heureusement plus par rapport à la couleur de peau, elle se pose encore par rapport aux gens qui ont les cheveux roux. On parle de nos jours de roussisme, pour désigner ces discriminations à l'égard de la rousseur.
Nous avons tous en tête le drame qui est survenu en 2013, lorsque Matteo, jeune adolescent roux, s'est suicidé par pendaison pour mettre fin à la souffrance qu'il ressentait d'être harcelé. Ces discriminations d'un autre temps qui ne devraient que nous rappeler les sorcières du Moyen-Âge sont pourtant toujours d'actualité.
Pour étudier ce sujet, nous avons interviewé Pascal Sacleux, photographe, ainsi que Valérie André, professeur d'histoire de la littérature et des idées à l'Université libre de Bruxelles, également directrice de recherche au FNRS. Tous deux se sont penchés sur le sujet, Pascal Sacleux via l'organisation du festival Red Love en Bretagne, rassemblant les personnes rousses et via ses portraits, et Valérie André avec la publication de deux livres, La rousseur infamante, histoire littéraire d'un préjugé, ainsi que réflexion sur la question rousse.
Nous nous sommes intéressés à cette thématique pour savoir d'où venait cette discrimination et comment elle s'appliquait et évoluait dans notre société, mais aussi pourquoi cette discrimination n'était pas prise au sérieux.
Au début, nous voulions en savoir plus sur l'origine de ces discriminations. Nous avons constaté qu'elles venaient tout droit de l'Antiquité, période durant laquelle la rousseur était associée à l'enfer, au feu, au diable, à la sorcellerie et à la superstition.
On associe les roux à la sorcellerie, on dit que les roux sentent mauvais. Alors, sentent mauvais, ça voulait dire sentent le soufre, ce qui était le propre des sorciers et des sorcières. On dit que les roux n'ont pas d'âme, ça aussi, ça venait rejoindre la discrimination. Donc, on en a brûlé pas mal hein, sous l'Inquisition, au titre de la sorcellerie.
Durant l'époque moderne, les femmes rousses étaient, elles, assimilées à la prostitution. Dans la littérature et même la science le confirmait, comme nous l'indique Valérie André lorsqu'elle évoque Zola.
Et au moment où il écrit Nana, eh bien vous avez toute une série de théories médicales qui s'intéressent notamment aux déviances sexuelles, etc. Hein, et où on va trouver, sous la plume de médecins, des affirmations du style les prostituées, enfin les femmes rousses portent en elles le gène de la prostitution.
Ces préjugés sont restés ancrés dans l'inconscient des gens.
C'est que ces mêmes insultes continuent de perdurer aujourd'hui, même chez des gens qui ne sont ni catholiques ni croyants.
Quant à l'aspect juridique de cette discrimination, il est à noter que le roussisme reste impuni par la loi, car il ne vise pas une ethnie particulière et qu'il ne peut donc pas être rapproché juridiquement d'une forme de racisme. Mais ces mécanismes sont similaires.
Alors, les moqueries envers les roux sont devenues un truc un peu habituel, dont on n'a pas peur d'avoir un procès ou des représailles.
Selon vous, peut-on assimiler ces discriminations à du racisme ?
Oui, je pense. Je pense très clairement. En tout cas, peut-être pas sur le plan de la désignation en tant que telle, puisqu'il n'existe pas de race ou de groupe défini. Mais le mécanisme est le même.
Nous pouvons nous demander si dans le monde du travail, les discriminations anti-roux sont d'actualité. Une photo sur un CV peut entraîner un refus d'embauche si l'employeur n'aime pas les roux, ou au contraire, pousser un employeur à proposer un entretien d'embauche à une jeune femme rousse pour de mauvaises raisons.
Dans la famille elle-même, le roux peut être l'objet de rejet par ses parents. Ceci pour diverses raisons. Le gène MC1R saute souvent plusieurs générations et un enfant peut se retrouver le seul à être roux dans sa famille. Les parents, dans ce cas, ressentent parfois une certaine honte. De par cette différence, et aussi parce que souvent, ils ont été les premiers dans leur jeunesse à discriminer des personnes rousses avec des quolibets du genre « rouquin », signifiant « chien rouge » et autres moqueries.
De nos jours, avec l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos vies, nous ne pouvons nous étonner de constater que cette haine est exacerbée via les blogs, des pages Facebook anti-roux.
Donc, on va voir fleurir sur Facebook autour des années 2000, 2007, entre 2007 et 2012, 2013, un nombre impressionnant de blogs anti-roux, mais qui rivalisent d'imbécilité, bien entendu. Hein. Donc, on a une sorte de déversoir de haine, comme ça, qui va se manifester à propos des roux. Et vous allez trouver, à propos de ces gens, toutes les choses qu'on ne dirait pas à propos d'autres groupes.
Malheureusement, force est de constater que les personnes rousses auto-censurent elles-mêmes leur rousseur. Il y a peu encore, des produits cosmétiques permettaient d'enlever ou de cacher les taches de rousseur. Comme le dit Pascal Sacleux, il est temps que les roux se rabibochent avec leur image et qu'ils arrêtent d'accepter le lien qui est fait entre la rousseur et la laideur. Pascal Sacleux lui-même, photographe, a mis en valeur la beauté de la rousseur avec divers vernissages montrant des portraits de personnes rousses.
Soit dit en passant, il est intéressant de signaler que selon son origine, un roux ne sera pas perçu de la même façon. Pascal Sacleux nous interpelle là encore sur le fait qu'un Irlandais roux ne sera pas discriminé, car l'Irlande est associée à la rousseur. D'autre part, Valérie André dit que dans d'autres régions du monde, les roux ne sont pas moqués, à l'image de l'Afrique du Nord. Alors qu'en France, le roux est encore l'objet de moqueries.
En parlant d'image, il est important de se rendre compte que les médias, que ce soit les films, les dessins animés, les publicités, ne rendent généralement pas service au roux. Le roux est souvent l'enfant espiègle, qui fait des bêtises. En revanche, les femmes, si elles sont très belles, seront alors associées à la femme fatale.
Il n'y a pas de grand rôle qui soit fait pour un roux. Vous n'avez pas de vrai jeune premier qui va être roux, quoi. On va encenser la blondeur ou le côté brun ténébreux, mais pas forcément le roux. La rousse, c'est différent. Dès que vous avez besoin d'une femme fatale, on va la chercher avec des cheveux roux.
Depuis peu, quelques séries mettent en scène des héros roux d'un autre temps, ce qui laisse présager que la couleur rousse se normalise tout doucement.
Et le fait qu'il y ait eu notamment un engouement pour tout ce qui était littérature viking, vous voyez, une série Game of Thrones et des choses comme ça, qui vont replonger dans un terroir mythologique ou dans un fond culturel ancestral. La rousseur n'est pas perçue de la même manière, hein, où elle est valorisée en tant que couleur guerrière, par exemple.
Heureusement, depuis quelques années, le roux devient tendance. Certaines filles se font des fausses taches de rousseur, se teignent en roux. Mais attention, tout ceci avec légèreté, car il ne faut ni être trop roux, ni que les taches de rousseur soient trop nombreuses, ou trop ceci, ou trop cela. D'ailleurs, d'après Pascal Sacleux, les roux trop orange sont ceux qui vont morfler, car ils sont mis directement dans la catégorie des laids. Ils ne se rapprochent pas de ce qui est connu et du normatif.
Celui ou celle qui vont vraiment morfler, c'est ceux qui sont sans doute vraiment orange, parce que ça se rapproche de rien qu'on connaît en termes de poils.
Valérie André est-elle aussi d'accord sur ce fait, tout en soulignant que la rousseur est un accident biologique des gènes et que personne n'a été programmé à la base pour être roux. Ce qui pourrait expliquer aussi la situation actuelle.
En conclusion, dans tous les cas, face à des moqueries ou à un quelconque harcèlement, Pascal Sacleux indique qu'il existe pour lui, trois façons de réagir. Ou on rase les murs, ou on a une bonne répartie et on ne se laisse jamais faire, ou on joue des points.
Selon lui, seule la deuxième solution est la plus optimale, car premièrement, il est impossible de passer inaperçu. Même en rasant les murs et en ce qui concerne la troisième solution, il y a un risque pénal.
Enfin, tout ceci nous laisse encore à penser qu'il faut être vigilant par l'éducation, que ce soit à l'école et à la maison.
Et donc pour moi, ça c'est un travail essentiel de l'éducation à tous les niveaux, à la fois de la cellule familiale et de l'école. Je pense vraiment que ce sont plus que les journaux, hein, plus que les médias, qui très clairement pour le moment surfent très fort sur cette vague du roux, parce que ça fait vendre, parce que c'est porteur, parce que c'est entre guillemets sympa.
Pascal Sacleux souligne lui aussi l'importance du rôle que joue la famille et annonce que les aînés doivent être les exemples pour les plus jeunes.
Il suffit juste d'être suffisamment imbécile, en fait, pour répéter ce truc qu'on entend depuis toujours. Et on va dire qu'un enfant de 7 ans n'invente pas une insulte. Il l'entend de ses parents. qui eux-mêmes l'ont entendu, etc. Parce que j'ai eu des témoignages d'enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans à l'école primaire qui se sentaient totalement anéantis parce que leurs camarades du même âge leur disaient dans la cour « Ouais, mais toi, t'es roux, tu pues, machin. D'où est-ce que tu sors ça quand t'as 7 ans, quoi ?» Eh ben, on ne l'invente pas, ça vient des parents.